française qui a ouvert le festival de Cannes la semaine dernière, c'est Partir un jour avec Juliette Armanet.
Oui, qui incarne Cécile, qui est une lauréate de Top Chef et qui est en pleine effervescence parce qu'elle va ouvrir son propre restaurant gastronomique à Paris. Et puis là, elle reçoit un coup de fil du patelin de son enfance dans le Grand Est. Et son papa a eu un nouvel infarctus, il n'est vraiment pas en forme. Alors son partenaire dans le restaurant lui dit « Cette fois-ci, tu dois vraiment retourner, tant pis, on va se débrouiller. » Et elle retourne effectivement dans le patelin de son enfance. Et son papa, qui est un vieil homme bourru et têtu, l'accueille très mal parce qu'en fait, il considère qu'elle est devenue une sorte de parigote snob et qu'elle a renié ses racines et surtout qu'elle méprise un peu ce qu'il fait lui, à savoir la cuisine de restaurant. En fait, il tient un relais routier et donc il n'est pas du tout dans la haute gastronomie. Donc, ce sont des retrouvailles difficiles. Et puis, ce ne sont pas les seules retrouvailles parce que Cécile va retrouver également Raphaël, qui est un amour de jeunesse, et on sent bien que tout n'est pas terminé entre eux, même si officiellement il est ravi de la revoir. Alors Amélie Bonnin a choisi la formule d'une comédie entrecoupée de chansons, comme dans le célèbre On connaît la chanson de Alain René, c'est-à-dire qu'il y a certaines chansons et surtout des paroles de chansons qui sont rechantées par les principaux protagonistes et qui font avancer l'action. Et on a par exemple Alors on danse de Stromae dans au début du film dans le restaurant gastronomique. On a Le Loir-et-Cher de Michel Delpech. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Mais c'est parfaitement logique qu'on ait ça dans le film. Ça apporte beaucoup de charme au film. Je trouve d'ailleurs que tous les personnages sont extrêmement bien dessinés. Le personnage du père et de la mère, joué par François Rollin et Dominique Blanc de la Comédie Française, forment un couple extrêmement crédible et attachant. Bastien Bouillon, qu'on avait vu dans La Nuit du 12, qui joue le Raphaël, l'amoureux transi, est également tout à fait convaincant. Que dire de Juliette Armanet? Mais Juliette Armanet parvient à être autre chose qu'une chanteuse. Simplement, son personnage n'est pas extrêmement attachant et sympathique. C'est peut-être le petit talon d'Achille du film. Et en même temps, ce personnage ne doit pas forcément être sympathique, puisque, je l'ai dit, les retrouvailles sont difficiles. Donc, c'est un film avec des ambitions relativement modestes, mais en tout cas qui arrive complètement à être cohérent et qui dégage une sorte d'humour mélancolique assez attachant. Donc, c'est une très jolie surprise que ce Partir un jour.
Bon, avec la chanteuse donc Juliette Armanet. Et puis, un autre film qui était aussi en avant-première au Festival de Cannes, c'était mercredi dernier, et c'est le blockbuster de ce mercredi, c'est Mission Impossible Final Reckoning avec Tom Cruise.
Oui, et qui est donc la deuxième partie de The Dead Reckoning qui est sortie il y a 2 ans. Alors, Paramount a reporté cette suite d'un an, 2 ans entre 2 parties d'un film par les temps qui courent, c'est difficile. Alors, je rafraîchis la mémoire de ceux qui ont vu le numéro 1. Ici, l'ennemi n'est plus un méchant qui dirait Hello, Mr. Bond. Non, on est avec The Entity. L'entité, c'est-à-dire justement l'intelligence artificielle qui a pris le dessus et qui menace de absolument tout contrôler sur Terre. Ceux qui parviennent à s'emparer de cette entity, il y a un méchant malgré tout qui s'appelle Gabriel dans le film, joué par le très peu charismatique Ezai Morales, qui essaye évidemment de s'emparer de cette arme fatale. Et Ethan Hunt, alors c'est extrêmement compliqué, parce que pour déjouer les plans, eh bien, Ethan Hunt doit s'emparer de 2 parties d'une clé cruciforme qui va permettre d'ouvrir un logiciel qui est enfoui dans un sous-marin russe qui a coulé au fond de la mer Baltique.
Wow.
Oui, alors ça prend énormément. Le réalisateur Christopher McQuarrie, qui est également le scénariste, s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce que justement c'est tellement compliqué que ça prend un temps infini. Il faut tout expliquer, c'est terriblement bavard. Et donc j'ai regardé montre en main avant d'avoir une première vraie scène de bravoure. On a 1h25 de dialogue. De temps en temps des combats mano à mano, mais rien de très spectaculaire. La première scène spectaculaire, à savoir de plonger, puisqu'il faut retrouver ce sous-marin enfoui dans la mer glacée. Bon, ça c'est la première démonstration de force de Tom, je fais mes cascades moi-même à 62 ans Cruise, et la deuxième cascade de Tom, je fais mes cascades moi-même Tom Cruise, c'est un combat entre 2 avions biplans, mais in fine, on se demande pourquoi s'embarquer dans un scénario, enfin dans une quête aussi compliquée, c'est inutilement compliqué, c'est inutilement bavard et c'est inutilement long. Et en fait, on a le sentiment d'avoir une sorte de blockbuster d'un autre âge, parce que cette quête, bon, il y a bien l'intelligence artificielle pour rendre ça contemporain, mais cette quête du héros sans peur et sans reproche qui, à lui tout seul et avec sa petite équipe, va sauver le monde, c'est tellement en déphasé par rapport au contexte géopolitique contemporain, alors que beaucoup de séries d'espionnage aujourd'hui essayent d'être ancrées justement dans la réalité géopolitique et essayent d'être plus pertinent. Ici, on est dans quelque chose, quelque part, d'assez dépassé en fin de compte, peut-être parce que le film, aussi la gestation de ce film en deux parties était tellement long que quand il sort, ben justement, il est déjà un peu dépassé par l'actualité. Voilà, donc ça s'intitule The Final Reckoning. Alors, est-ce que c'est vraiment le dernier? Ça dépendra du résultat au box-office.
C'est ça,
voilà.
Mais qui a coûté très cher.
Qui a coûté très très cher et qui va être visiblement très 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 difficile à rentabiliser.
2h50. Bon.